bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler des protocoles ouverts, on va parler de messagerie, de communication, etc. Et pour ça, je suis avec Julien.
Salut. Bonjour. Julien. Salut Audrey.
Alors Julien, tu vas nous parler plus précisément justement des notions de protocole, des clients. Déjà, on peut se demander bon, avec quelle application on communique aujourd'hui sur le web, sur nos téléphones, etc. Quel est le modèle des applications qu'on utilise actuellement? Alors aujourd'hui, on utilise principalement des services tels que WhatsApp, Messenger, etc. Un certain modèle de messagerie que on appelle des messageries plutôt centralisées, c'est-à-dire que ce sont des messageries qui fonctionnent un petit peu en silo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Julien?
Alors oui, en fait, aujourd'hui, la majorité des messages qu'on peut utiliser en fait se basent sur des applications telles que WhatsApp, Messenger et ou encore même parfois même Instagram pour les plus récents. C'est quelque chose qu'on constate et même les établissements, les institutions s'y mettent et c'est un moyen pour eux de pouvoir communiquer et d'offrir aussi une certaine visibilité pour leur business ou même juste leur activité. Du coup, en fait, tu parlais tout à l'heure de Silo. En fait, ces applications, il faut savoir qu'elles sont principalement gérées par des entreprises. Dans le cas de Messenger, WhatsApp et Instagram, c'est The Facebook Company qui souhaite héberger les services. Du coup, les différents services. À la base, Instagram et WhatsApp étaient juste des entreprises qui avaient été montées comme ça par des startups qui avaient bien marché. Par exemple, WhatsApp a très bien marché sur le fait qu'on avait uniquement besoin du numéro de téléphone d'une personne pour pouvoir la communiquer et on n'avait pas besoin de payer un forfait supplémentaire ou d'avoir une souscription pour pouvoir discuter avec des personnes qui étaient dans d'autres pays. Du coup, c'est quelque chose qui a fait en sorte que WhatsApp se développe beaucoup et que ça amène des discussions à travers les pays. Et Instagram s'est basé sur une utilisation qui était intéressante de la photo, avec le fait qu'on puisse rapidement avoir des filtres, mettre des clichés intéressants et en quelque sorte créer un espace convivial autour de photos et d'images. Et c'est aussi une application en fait qui a marché avec ce modèle-là. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces applications-là ont été rachetées ces dernières années par Facebook pour pouvoir en fait augmenter leur potentiel et pouvoir développer beaucoup plus les fonctionnalités. Il y a maintenant, par exemple, dans Instagram, beaucoup plus de filtres, une plus grande communauté et aussi un système de recommandation qui existe à la fois pour les gens qui postent du contenu et aussi pour les gens qui utilisent l'application. Mais en fait, du coup, c'est à peu près ce qu'on utilise. Moi, je sais que de mon côté, j'utilise pas mal ces applications-là. Enfin, j'utilise essentiellement Messenger qui est l'application de Facebook pour la communication rapide, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur là. J'utilise pas Instagram. Mm-hmm. À l'époque, j'avais un compte il y a longtemps, mais je l'ai arrêté parce que j'en voyais pas trop l'utilité. Et surtout parce que mon ancien téléphone a cramé, enfin, n'a plus à planter quand j'avais essayé de prendre une photo un jour. Je me suis dit, j'ai aucune utilité.
Ça réduit un petit peu l'expérience utilisateur d'Instagram, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et j'utilise aussi WhatsApp pour des messages de personnes que j'ai rencontrées à l'étranger aussi qui, en fait, utilisent essentiellement ça. Du coup, c'est un peu compliqué parce que ça fait une multiplication des moyens de communication, finalement.
Ouais, d'accord. T'es obligé de switcher entre plusieurs applications en fonction des personnes qui sont dessus. Et ça, donc, c'est un autre inconvénient de ces applis-là, en fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une application et tu es obligé d'utiliser cette application-là pour pouvoir communiquer avec les personnes qui sont dessus. C'est bien le problème aussi.
C'est ça. Bah, d'un point de vue de... On voit, c'est d'un point de vue de l'usage, en fait, c'est le cas aussi pour, par exemple, tout ce qui va être vidéo. Parfois, moi, je sais que ça m'est arrivé incalculable de fois, que ce soit genre un cadre privé ou un cadre professionnel, de se dire, on veut faire une conversation en famille sur en vidéo. Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise Skype? Non, c'est pas possible, parce que moi, ça marche pas sur mon ordinateur qui supporte pas le client Skype qui a pas été écrit par exemple pour Linux.
Ouais.
Ou par exemple, est-ce qu'on peut utiliser Zoom? Maintenant, parce qu'il faut que on réinstalle Chrome ou par exemple ma tante elle connaît que Skype. Enfin, ouais, c'était en fait les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication des usages, une multiplication des plateformes.
Ouais.
Et en même temps, le fait que ces plateformes-là aussi sont gérées par des entreprises aussi qui sont aussi localisées en dehors de l'Europe.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui n'est pas forcé, qui est pas forcément simple, par exemple, au niveau de l'Europe, où on sait que celle-ci veut essayer de lancer une dynamique pour créer des acteurs un peu plus européens et avoir un peu plus de gouvernance sur les messageries des personnes, mais aussi, par exemple, des entreprises.
Ok, d'accord. Donc ouais, là tu soulevais deux points. Là, il y avait le problème de l'incompatibilité donc des différentes applications. Enfin, le fait qu'elles ne soient pas interopérables, qu'elles ne puissent pas communiquer entre elles. Et puis là, tu parles d'autre chose qui est aussi super important, c'est justement le problème de souveraineté par rapport aux données, parce que ces données-là donc elles partent en dehors de l'Europe. Et ça donc c'est un souci de ce modèle-là, quoi. Hein.
Voilà, ça peut être vu comme un problème en soi. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça concentre en fait d'un point de vue du réseau toutes les communications sur une zone très petite du globe, qui est essentiellement en fait du coup une partie de la Californie où il y a la majorité des connexions en fait repart par là-bas et sont concentrées à ces niveaux-là. Ça peut être une première raison. Une autre raison qui est un peu plus importante, c'est au niveau de la gouvernementalité, tout ça, de la souveraineté.
Ouais.
Finalement, on a plein de messages qui sont sur des serveurs de personnes. Ça peut être des messages. On a vu par exemple avec l'affaire Griveaux des trucs très intimes qui n'ont pas lieu de sortir d'un
De
certain
chez lui
cadre,
déjà,
qui en fait, voilà,
oui.
qui en fait dorment sur des serveurs qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous et peut-être de manière dupliquée. On ne sait pas comment c'est stocké. Et la troisième raison, qui est peut-être en fait celle qui est, on peut dire, un peu plus sournoise, c'est que ces données-là, en fait, elles ne font pas que dormir sur des serveurs, mais elles sont utilisées pour pouvoir mettre en place des systèmes de recommandation
Ouais.
ou des systèmes, en fait, qui vont en quelque sorte essayer de trouver quelle est la clientèle dans l'ensemble d'utilisateurs. Il y a pas mal d'histoires ou de témoignages sur Instagram de personnes qui disaient qu'elles discutaient ou que. Elles discutaient en fait d'un produit, de quelque chose, d'une activité avec des membres de leur famille, et en fait, elles sont vite aperçues que grâce à leur manière de naviguer sur Instagram ou genre juste leurs échanges avec des amis, elles se voyaient en fait proposer des choses, par exemple quelqu'un qui était fan de photo, qui se voyait proposer tout ce qui était les formations ou des appareils photo. Ça, c'est encore pas trop sournois, mais ça montre quand même le fait on peut être en fait en quelque sorte observer et on va aussi nous refouler des choses. Du coup, c'est quelque chose en fait une approche un peu plus éthique qu'on a sur l'outil, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est un modèle économique où base en fait on paye pas, c'est-à-dire qu'on rejoint le service parce que c'est un service intéressant, mais la contrepartie c'est que nos données sont hébergées d'une façon dont on ne connaît pas sur des serveurs distants et sont utilisées en fait à des fins économiques et c'est aussi du coup le gros enjeu d'utilisation de ces outils-là.
Ouais, tout à fait. Et oui, parce que ce que tu expliques là, c'est vrai que c'est lorsque on va installer ces applications-là, on est obligé pour pouvoir les utiliser de leur donner certaines autorisations. Des fois, on regarde vraiment vite fait, on fait pas gaffe. Et dans ces autorisations-là, il y a par exemple, notamment ouais, pour Instagram, l'autorisation d'utiliser le micro, de prendre des photos, d'accéder à justement à toute la galerie du téléphone, etc. Et avec, enfin, par le biais de ces autorisations-là, comme on ne sait pas quel est le code, comment fonctionnent ces applis, on ne peut pas maîtriser ce qui est vraiment fait de ces autorisations. Et donc, comme tu l'expliques, ça donne des trucs où finalement les utilisateurs sont complètement surveillés, et puis que c'est utilisé à des fins, pour l'instant, commerciales, à des fins publicitaires. Mais c'est un vrai souci. Donc, à la fin, en fait. Ouais, quelle est la place donnée au choix de l'utilisateur, à ce que peut vraiment savoir l'utilisateur de l'application? Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Donc, enfin bon, en tout cas, on peut se poser la question. Donc ça, c'est un certain modèle de messagerie, d'outils qui peut nous permettre de communiquer en ligne. Est-ce qu'il en existe d'autres? Est-ce qu'il existe des alternatives, donc d'autres infrastructures, d'autres modèles pour communiquer qui ne soient pas justement des applications fermées avec un serveur centralisé qui concentre tous les messages, etc., à l'autre bout du monde? Voilà. Est-ce qu'il existe d'autres modèles?
Et alors, après avoir fait un peu ce constat un peu triste, L'idée, c'est pas de repartir amoureuse et de se dire je vais plus jamais utiliser ça et je vais m'enfermer dans une cave. L'idée, c'est pas de faire ça. L'idée, c'est un peu plus comprendre les usages qu'on peut avoir de ces technologies-là et surtout les usages en fait qui sont faits de nos données. Alors après, en fait, ce qui est un peu fondamental à comprendre, c'est pas forcément se dire je vais plus utiliser cette application-là ou quelle est la bonne application à utiliser, quel est le nouveau truc à utiliser. Par exemple, quand on entendait parler de Telegram, il y a vraiment plein de gens qui sont lancés sur ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Telegram, bon, ça se propose comme, par exemple, une solution aussi de communication chiffrée de messagerie, mais il y a des parties qui sont ouvertes et d'autres parties un peu plus obscures de cette application-là. Et en fait, pour pouvoir élargir le cadre de cette réflexion, il ne faut pas penser, je pense, la question en tant que question, il faut un peu plus voir ce qui a pu exister dans l'histoire et se dire, en fait, qu'est-ce qui existait avant et est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ça pour construire en fait une alternative de communication qui soit intéressante d'un point de vue de l'usage, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit cool à utiliser et qui soit intéressant d'un point de vue éthique, c'est-à-dire bah, qu'on redonne en quelque sorte le contrat à l'utilisateur sur ses données et sur ce qui est fait de, en quelque sorte, sa vie privée. Du coup, en fait, si on regarde un peu dans l'histoire, parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir prendre pas mal de perspectives. En fait, ce genre de choses, ça a déjà existé. Le fait d'avoir des communications qui soient fermées entre des entités, ça était le cas au début de l'informatique. Quand on prend en fait les emails à la base, c'était quelque chose qui était. Bon, maintenant tout le monde utilise les emails, c'était quelque chose qui était fermé. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient mis d'accord sur un protocole qui était fermé. Et voilà, en fait, il y a une façon de communiquer par les emails.
D'accord. Ouais, Julien, excuse-moi, juste que tu parles de protocole. Qu'est-ce que c'est un protocole?
Voilà, on voit ici en fait.
Pardon.
L'aile, c'était quelque chose, un moyen de communiquer qui était relativement simple entre les entités. Et en fait, quand on s'est rendu compte que l'Internet pouvait être ouvert et pouvait permettre à plus d'entités, d'organismes de communiquer entre eux, le mail s'est proposé, enfin, s'est montré être une solution intéressante pour pouvoir communiquer. Et à partir, en fait, les gens se sont mis d'accord sur une manière de communiquer. Juste une manière de communiquer pour que ces entités puissent garder leur indépendance, leur souveraineté, et puissent se mettre en fait d'accord sur juste un moyen de pouvoir se passer des informations. Du coup, c'est là que en fait, on parle de protocole, c'est-à-dire que plutôt que voir une application de bout en bout, j'envoie un message, hop, c'est quelqu'un qui s'occupe de traiter mon message. Ici, par exemple, WhatsApp qui traite mon message, qui l'envoie à ma grand-mère, à ma tante, à ma petite amie. Par exemple, ça va être on va dire une manière ouverte de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on envoie les messages.
Ok, donc ouais, c'est beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'au lieu de tout déléguer à une application qui fait tout et dont on ne sait pas trop comment elle fonctionne, là l'idée c'est de se mettre d'accord juste sur la manière de communiquer, les règles qui définissent formellement en fait la manière dont le client, le serveur va communiquer. Et si on se concentre que là-dessus, ça permet déjà d'ouvrir beaucoup de choses et donc de contrôler un petit peu mieux comment ça marche, c'est ça?
C'est ça. En fait, l'idée, c'est, par exemple, c'est un peu comme la loi. C'est-à-dire que plutôt qu'il y ait en quelque sorte un moyen opaque ou quelqu'un qui met les autres d'accord sur une manière de fonctionner, ben, on va se mettre d'accord de manière globale sur un moyen de, en quelque sorte, de faire marcher les choses. Et le mail, en fait, si on regarde le mail, en fait, à la base, le mail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire courrier. Et en fait, le mail, c'est juste l'extension de ce qui existait déjà, c'est-à-dire ben, le courrier par voie postale. À Internet, c'est-à-dire que avant, quand on écrivait un courrier, bah, on prenait un papier, un stylo, et avec sa plus belle plume, bah, on écrivait une lettre qu'on envoyait ensuite à quelqu'un. Et en fait, il y avait on n'utilisait pas quelque chose de bout en bout. Il y avait tout un processus derrière qui utilisait. Les gens se mettaient d'accord sur un acteur bah, qui faisait la transmission. Et c'est bah, dans le cas de la France, c'est la Poste qui s'occupe de ça et tout le monde en fait contribue par les impôts à ce service-là, mais il y avait quelque chose de très très opérable en fait où chacun pouvait en fait avait une adresse et pouvait envoyer des messages d'autres personnes. Et en fait le mail avait juste été en quelque sorte une transposition simple mais ouverte, c'est-à-dire avec du coup une spécification de comment est-ce que les choses allaient marcher. Et c'est là qu'en fait c'est là que c'est intéressant de creuser pour comprendre les enjeux que les enjeux en fait des communications décentralisées.
D'accord, ouais, c'est ça, tu as dit le mot important, c'est-à-dire que le mail, grâce à ce fonctionnement-là, a pu rester justement décentralisé et ne pas être géré par une seule entité, une seule entreprise.
C'est ça.
Ok.
Par exemple, le mail, là, aujourd'hui, en fait, je peux avoir un compte n'importe où, à la Postmette ou n'importe où. Et
Ouais, tu
même
choisis.
dans une université, du jour au lendemain, si par exemple je pars de mon université, je pourrais faire en sorte de pouvoir toujours utiliser les mails. Je n'aurai pas la même adresse, mais je pourrais faire en sorte de toujours avoir mes mails si je fais une redirection, par exemple, qu'on peut avoir une redirection de mail dans le monde réel en quelque sorte. Et je pourrais toujours continuer à utiliser le service avec les mêmes personnes. Et en quelque sorte, ce qu'il faut savoir, c'est que les mails, ils sont pas stockés sur un serveur, je ne sais où, ils sont stockés sur le serveur que je connais, c'est-à-dire le serveur de mon université.
Ouais.
Et là, on garde la gouvernance d'un point de vue des données. On sait que les données sont en fait stockées sur ces serveurs-là. Et on peut en quelque sorte avoir plus confiance déjà dans cette entité-là qui est, je sais pas, par exemple, l'université.
Ouais, tout à fait. Donc il y a cette question de confiance et puis le fait que de cette manière-là, toi, tu es tout à fait indépendant, c'est-à-dire que quand tu quittes l'université, tu peux tout de même continuer à utiliser ce service de mail ou de courrier dont tu parlais. Parce que voilà, tout ne dépend pas comment dire, d'un client qui serait géré par l'université ou quoi. Tu peux t'en défaire mais en continuant d'utiliser le service.
C'est ça. Du coup, en fait, ça offre un enjeu de pouvoir, mais ça
Ouais.
offre aussi du choix. C'est-à-dire que, par exemple, les mails, tu les crées de plein de façons différentes. Il y a des gens qui sont des informaticiens férus qui écrivent leurs mails directement dans leurs terminaux. Mais généralement, ce qu'on utilise, ça va
C'est
être
un peu
des.
extrême.
Ça, ouais, ça peut être, par exemple, utiliser juste des interfaces web ou, genre, par exemple, Thunderbird ou d'autres logiciels pour pouvoir écrire des mails. Et
Ouais.
c'est là qu'en fait entre la notion de client, c'est-à-dire que on n'a pas une seule application qui permet d'envoyer des messages. Dans le cas de WhatsApp, en fait, WhatsApp est à la fois ce qu'on voit, l'application, c'est à la fois ce qui nous permet d'envoyer le message, qui stocke le message, qui en fait délivre le message à l'autre chaîne. Ça fait tout de bout en bout. C'est on dirait un logiciel en silo. Là où
Ouais.
le mail, en fait, en quelque sorte découple tout cela en plusieurs choses qui sont tout d'abord un protocole où on se met d'accord de comment les messages transitent, des serveurs où sont stockés les messages, par exemple les serveurs sur l'université, et aussi des clients, c'est-à-dire qui est utilisé par les utilisateurs pour pouvoir envoyer des messages. En fait, ce que
D'accord.
ça offre, c'est aussi du choix en termes d'usage, c'est-à-dire que les personnes en fait sont libres d'utiliser ce qu'elles veulent pour pouvoir écrire un message. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que sauf typiquement le choix, et ça peut être quelque chose qui peut être aussi plus flexible. Et on peut écrire par exemple sur plusieurs, enfin de manière adaptée sur plusieurs outils grâce à cela.
D'accord, ouais. Et donc, ça, le fait de pouvoir après utiliser le client que l'on veut et puis même peut-être créer ou adapter un autre client selon le besoin que l'on a précisément, si on a les certaines compétences justement nécessaires pour ça, cette liberté-là, donc j'imagine, pour pouvoir vraiment la mettre en place, il faut que le protocole soit tout à fait ouvert, accessible à tout le monde. Et donc là, tu fais le lien aussi avec les logiciels libres et puis les formats ouverts.
C'est ça. Et en
Ouais.
fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le format du mail. Alors, quand je dis, en fait, les mails sont un protocole, c'est un peu simplifié. Il y a plusieurs protocoles, mais l'idée reste la même, c'est que c'est quelque chose sur lequel les gens se sont mis d'accord et qui a été ancré. C'est quelque chose qui permet en fait que l'on puisse modifier en fait l'existant et l'adapter pour faire en sorte de correspondre à de nouveaux usages, faire en sorte que ça soit techniquement plus robuste. Là où les applications en fait, comme WhatsApp s'occupent de faire tout ça, on n'a pas la visibilité sur par exemple le chiffrement qu'ils indiquent. Ils disent chiffrer les messages d'une certaine façon qu'on appelle chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que les messages sont uniquement stockés sur les appareils qui sont utilisés pour les messageries. Et ça, on n'a en fait techniquement aucun moyen de savoir si c'est réellement le cas. Et
Oui,
voilà.
parce que le code est fermé, on n'a aucun moyen de vérifier quoi.
C'est
Ok.
ça. On a un.
Ouais, non, j'allais te poser une autre question par rapport à la sécurité, justement, parce que là, donc on a une certaine modalité de la sécurité qui est le chiffrement des messages, mais après, il y a la sécurité aussi de l'infrastructure en elle-même, c'est-à-dire la robustesse, la résilience de l'infrastructure. Ça, on ne peut pas le vérifier du tout pour une application comme WhatsApp, justement, et puis comme c'est un service très centralisé, c'est pas top, quoi, au niveau de, justement, de la robustesse des serveurs, enfin. Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est un petit peu l'idée. Alors que quand tu as justement un service décentralisé, là par contre, tu as, sans parler même de chiffrement, tu as dans l'infrastructure un modèle qui est en soi déjà plus solide, quoi.
Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on peut voir parfois dans arriver. Il y a pas si longtemps que ça. Par exemple, je crois que c'est il y a quelque chose comme 2 ans. Amazon, en fait, a un service de location de serveurs qui s'appelle AWS. Il, en fait, permet d'héberger des services pour soi ou pour de manière professionnelle. Et il y avait eu un problème technique sur l'infrastructure qui avait mis, je crois, près un tiers des sites web en maintenance forcée, et en fait ça marchait plus, et du coup ça avait entraîné pas mal de problèmes pour beaucoup de gens, juste pour communiquer ou pour continuer à faire ce qu'ils devaient faire, et ça juste en fait a été un gros shutdown d'une partie du web pendant un bon moment. Et en fait, ce qu'on peut se demander, c'est que bah là, si demain on sait pas, là on voit qu'il y a potentiellement aujourd'hui on a des problèmes de pandémie, on sait pas, on sait qu'il y aura des problèmes qui vont venir de plus en plus au niveau des événements extrêmes, en fait, climatiques. Et en fait, on est en train de se dire, par exemple, en Californie, c'est possible, on ne sait pas qu'il y ait des problèmes juste, en fait, je sais pas, climatiques. Et le fait que toutes les communications aussi soient gérées par un seul acte, qui soit principalement basé en fait à un endroit géographique, a pas mal de problèmes sur le fait que ce système-là ne sont pas résilients. C'est-à-dire que il y a un endroit où ça peut potentiellement péter, et si ça pète, bah il y a beaucoup de choses qui vont plus marcher. Et c'est pas juste le fait de pouvoir se dire bah je pourrais plus parler avec mes potes, c'est se dire que tu as des entreprises entières qui reposent sur ces services-là, et qu'en d'un point de vue en fait point de vue de résilience du système, même d'un système économique, de ce qui fait que puisqu'on continue à vivre, bah ça c'est pas super super bien pensé en fait. Et
Tout à fait. Ok, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'histoire de la confiance qu'on pourrait avoir ou non dans ces acteurs-là, il y a le fait que est-ce qu'ils peuvent tenir. Enfin, il n'est pas rassurant pour nous, pour le monde entier, d'être complètement dépendant d'eux, parce que s'il leur arrive un pépin, ça nous tombe directement dessus, quoi. Et
c'est
on n'a
ça.
pas de, si on n'a pas mis en place des solutions alternatives, on se retrouve sans rien. Alors, tu nous parlais du mail, tu nous parlais. Justement de ces solutions-là très décentralisées, des protocoles, etc. Est-ce que tout de même il existe quelque chose qui reprenne ce modèle-là décentralisé et ouvert, mais qui nous permette d'avoir des communications qui ressemblent un petit peu plus à celles qu'on peut avoir sur WhatsApp, sur Messenger, c'est-à-dire des communications plus rapides, interactives, qui soient plus sur ce modèle-là?
Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est pas de se dire, bah, en fait, on va abandonner maintenant WhatsApp, Messenger, ce qui existe, pour repasser au mail, parce que c'est quelque chose, ça va pas être super pratique pour pouvoir juste envoyer des messages entre potes rapidement. Mais par contre, en fait, du coup, on peut passer aux alternatives qui existent pour faire la di discussion instantanée. Il y en a existé déjà quelques-unes dans le passé, mais là, il y en a une qui se propose de venir au goût du jour et de proposer une expérience qui est similaire à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des communications qui soient plus rapides et qui soient en fait facilement qu'on puisse redéfinir, en fait, se dire bon, quel type de communication on veut pour avoir par exemple des communications similaires à ce qu'on a avec WhatsApp, avec Messenger, pour avoir des réactions, des emojis, envoyer des vidéos, faire des appels audio, des choses comme ça, mais dans un cadre décentralisé. C'est se dire, bah, en fait, on veut le meilleur des deux mondes, on veut avoir le contrôle sur nos communications, faire en sorte d'avoir un système résilient, pouvoir changer, avoir le choix, savoir où sont nos données, mais d'un côté aussi, on veut avoir l'utilisation simple, le fait de pouvoir continuer à parler à nos potes, pouvoir interagir, avoir les vidéos et tout ce qu'on veut, les réactions, les émojis de chien, de chat, de cœur, tout ce qu'on veut.
Ouais,
Et
donc
en
d'avoir une expérience aussi riche finalement que ce qu'on peut avoir par ailleurs.
C'est ça. Et en fait, du coup, on parlait de protocole, on parlait de clients, on parlait de serveurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe aussi. sous quelque chose qui s'appelle Matrix, qui va être du coup un nouveau protocole pour des communications chiffrées, décentralisées, sur Internet.
Ok, donc c'est pas une
Et
application.
c'est ça. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas juste une nouvelle application qui va tout changer, comme on peut voir avec TikTok, que tout le monde se roule dessus. L'idée, c'est pas de voir ça comme une application qu'on va installer, hop, j'ai Matrix, tu as Matrix, ils ont Matrix, nous avons Matrix. C'est pas
Oui,
ça.
tout sur
L'idée,
Matrix.
voilà, l'idée, c'est d'avoir, en fait, juste une nouvelle manière de se mettre d'accord sur comment est-ce on va communiquer. Et Matrix, en fait, est juste quelque chose qui se veut être juste une convention. Et pour les communications décentralisées, mais pas uniquement.
D'accord, ça ne sert pas qu'à ça, c'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est... ça, c'est parce que tu disais que on n'est pas obligé d'arrêter d'utiliser les autres applications, ça veut dire qu'on peut utiliser Matrix aussi avec ces applications-là?
C'est ça, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Matrix propose un moyen de communiquer similaire à ce qu'on utilise aujourd'hui. Pour communiquer, mais ça vient pas juste se mettre en opposition et se dire bah nous on veut un truc qui soit complètement décentralisé, qui genre genre table rase de tout ce qui existe, on va plus jamais utiliser ce qui existe, Messenger et choses comme ça, on va utiliser que ça. Et bah là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Matrix se pose pas juste en opposition à des modèles comme ça, des applications centralisées, mais plus en complément, ou plutôt essayer d'englober ce qui existe déjà. L'idée, c'est de se dire qu'on a vu que, par exemple, Messenger, Instagram, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre? WhatsApp sont des applications qui sont utilisées. Le problème, c'est qu'on a en fait une multiplication des applications. Et ça, bah, c'est quelque chose qui est pas forcément cool quand on veut se mettre d'accord, qu'on veut juste parler avec des gens, en fait. Enfin, on a reçu des sollicitations de plein d'endroits. Et en fait, Matrix aussi se propose d'être un moyen, en quelque sorte, de garder plusieurs acteurs comme ça, mais de se mettre d'accord sur une nouvelle manière de communiquer entre ces applications. C'est-à-dire que, par exemple, moi, là maintenant, admettons, je sois nouveau, je m'intéresse à Matrix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Matrix met en place des choses. Bon, on détaillera peut-être un peu plus tard, parce que c'est
Ouais,
une chose un
on y
peu
reviendra
compliquée.
ça un peu.
Mais propose en fait des éléments qui permettent d'utiliser en fait, ces comptes sur WhatsApp, par exemple, sur Messenger, sur Instagram, pas encore, parce que c'est quelque chose qui est de la photo, c'est un peu compliqué,
Ok.
dans un cadre, en fait, dans un nouveau cadre de communication. Il faut retenir, du coup, c'est quelque chose qui vient en fait en complément de l'existant, qui propose juste un moyen d'avoir des communications qui sont interopérables.
D'accord. Bah, écoute, en effet, peut-être qu'on verra le détail de comment ça fonctionne, etc., dans une seconde émission. Mais déjà, tu nous as bien présenté déjà le cadre, le modèle, et puis comment ça fonctionne. En gros, dans les grandes lignes. Alors, tu as fait une interview de ton côté d'un ami à toi qui utilise déjà Matrix.
C'est ça.
De manière assez régulière, si j'ai bien compris. Et donc, voilà, tu l'as interviewé. On va l'écouter et puis on reprendra un petit peu après.
Alors, salut Pierre, est-ce que tu peux rapidement te présenter?
Salut Julien. Alors, Pierre, je viens d'être diplômé en ingénierie mécanique de l'UTC, voilà, après avoir fait 5 ans à Compiègne, donc les 2 ans de tronc commun et 3 ans d'ingénierie mécanique, et puis une petite césure du coup.
Ok, très bien. Alors, tu as dû entendre parler de Matrix, et même plus que entendre parler de Matrix, tu dois utiliser Matrix aujourd'hui. Comment est-ce que tu as commencé à utiliser Matrix?
Alors tout à fait, j'utilise Matrix de manière assez régulière. Alors comment j'ai utilisé Matrix? Tout simplement, expérimentation, volonté d'expérimentation d'un certain nombre d'amis qui sont très attachés au logiciel libre et qui voulaient qu'on discute. On a une conversation avec quelques potes et puis ils voulaient qu'on discute plutôt sur Matrix plutôt que sur Messenger.
Ok. Alors, pour Matrix, en fait, généralement, les personnes utilisent des clients pour pouvoir se connecter sur un serveur et parler avec d'autres personnes. Quels sont les clients que tu utilises?
C'est une excellente question. Je ne suis pas certain de pouvoir y répondre parce que j'avoue que j'ai été très très. C'est le cas de lire clientéliste sur cette approche. Moi, j'ai suivi mes collègues, mais je crois que j'utilise les clients très standards fournis par Matrix, si je ne me trompe pas.
D'accord, ok. Du coup, sur Matrix, en fait, généralement, les gens se connectent avec des clients, ils se connectent sur des serveurs qu'on appelle home server. Est-ce que tu as une idée de quel est ton home server et où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe en fait? Et qui est-ce qu'il héberge par exemple?
Alors le home server c'est voilà alors du coup je me suis trompé, le client j'ai aucune idée, c'est le home server, il s'appelle c'est vraiment le home server standard, je crois que c'est un home server qui est basé en Europe. A priori vu son nom il s'appelle Europe quelque chose, un truc comme ça de souvenir. Après
Ok.
qui l'héberge, j'avoue être assez non expert sur la question. Maintenant je sais qu'il me semble qu'il y avait un projet parmi mes quelques compères d'auto-héberger ce serveur pour pouvoir mettre de ce qu'on échange.
Ok, très bien. Est-ce que tu utilises Matrix quotidiennement?
Ouais, clairement, ouais. Surtout pendant le confinement.
Ah, ok, qu'est-ce que tu en penses finalement? Quel est son usage? Quel est l'avantage? Est-ce que tu vois des différences ou
Bah, on va dire que c'est un petit peu moins convivial au premier abord. Il y a plein de petits boutons, des choses à régler, des clés de sécurité. Surtout pour un non-initié, un novice voilà, comme moi. Bon, on n'y comprend pas grand-chose. Maintenant, ça fonctionne clairement comme Messenger, comme Slack. C'est la même chose. Donc bah, ça fait tout à fait le taf pour pouvoir discuter avec ses potes, on va s'envoyer des articles, voilà, réagir. Vraiment, moi, je vois pas de différence fondamentale avec Slack ou même
ouais.
Mattermost. Hein.
Est-ce que tu trouves qu'il y a des intérêts ou à utiliser Matrix, par exemple, ou pas tellement, ou est-ce que...
Du coup, bon, j'y suis pas particulièrement sensible par ma formation, etc. Moins sensible que les personnes avec qui j'utilise, mais l'intérêt principal, ouais, c'est d'avoir quelque chose de libre. Et puis, si j'ai bien compris aussi, c'est quelque chose qu'on peut moduler. Et surtout, bon, l'intérêt, c'est de pouvoir auto-héberger, donc éviter que ce soit logé sur des serveurs on ne sait où, par on ne sait qui, et qu'il y ait un usage pas forcément convivial qui soit fait des données qu'on échange.
Ok. Et dans ton utilisation, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des problèmes, des choses qui n'existaient pas ou des choses qui sont encore un peu pas très bien mises en place dans l'utilisation qui pourraient être facilitées?
Bah, vu que c'est différent de ce qu'on utilise, ce que j'utilise, on va dire 95% de ma conversation instantanée, c'est sur Messenger. Donc forcément, tout ce qui diffère de Messenger, j'ai avoir tendance à le caser dans ce qui marche mal. Maintenant, effectivement, ça marche différemment. Est-ce que je pourrais dire que ça marche mal? Je ne sais pas trop. Il y a pareil, il y a des emojis. Bon, ils sont peut-être un peu plus difficiles à utiliser que sur Messenger, mais
Ah,
franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus dramatique dans un logiciel de conversation.
enfin, c'est quand même important les émojis. Hein.
Ouais, mais c'est pas le cœur, donc bon, on va dire que c'est une petite concession qu'on peut faire, voilà, dans la mesure où on gagne sur d'autres choses, on gagne beaucoup. Après, sinon, ouais, ce qui est régulièrement, surtout pour un non-initié, ce qui est extrêmement compliqué à gérer, ces histoires de clés de chiffrement qui s'activent et se désactivent de temps en temps sans que je comprenne trop pourquoi. Alors bon, faut faire comme si j'y comprenais quelque chose, faut valider tout ça, vérifier tout ça, et puis les choses rentrent dans la normale, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu perturbant, on va dire.
Ok. Du coup, tu parlais par exemple de Messenger. Tu disais que ça marchait bien vis-à-vis de ce que tu pouvais aussi utiliser. Est-ce que tu utilises d'autres services de messagerie en ligne pour parler, discuter avec tes proches, avec des amis, avec même au niveau professionnel ou autre?
Dans les faits, j'ai utilisé un petit Skype en entreprise pendant mon TN10, sinon de manière extrêmement occasionnelle, un tout petit peu sur Mattermost, mais bon, vu que je suis en train de sortir de UTC, je vais être moins amené à m'en servir. Non, concrètement, c'est Messenger et Riot du coup.
D'accord. Oui, puisque l'UTC héberge sa propre instance Mastermost, qui s'appelle en fait team.mattermost.com, sur lequel on peut se connecter. Très bien. Est-ce que, par exemple, tu penserais que ce serait intéressant d'avoir une solution qui permettrait en fait de pouvoir utiliser différents services de messagerie? On parlait du coup de, par exemple, de Skype, on parlait de Mattermost, on parlait de Messenger, on peut aussi parler de WhatsApp ou autre, avec en fait finalement un client, c'est-à-dire une interface particulière.
Ah bah clairement, ça simplifierait la vie de tout le monde. D'ailleurs, t'as parlé de WhatsApp, effectivement, je l'avais oublié, j'utilise régulièrement WhatsApp, alors quasiment quotidiennement aussi. Oui, forcément, ça serait intéressant parce qu'il y a quand même un large étalement des logiciels, des sites internet de messagerie. Je sais que moi je suis un peu rétrograde, j'utilise pas Instagram, mais j'ai beaucoup d'amis outre-Atlantique qui utilisent également Snapchat pour converser entre eux. Enfin, au final, on est entre guillemets, si on veut pouvoir discuter avec tout le monde, avec l'interface qui va bien à chaque personne, quasiment à chaque génération, faudrait avoir un compte sur chaque réseau social.
Et par exemple, est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'avoir un système qui soit interopérable? C'est-à-dire qu'on puisse envoyer des messages à la fois à des proches qui sont sur WhatsApp et à des amis qu'on a rencontrés, par exemple aux États-Unis sur Instagram.
Bah, c'est clair que ça simplifierait les choses sur ça simplifierait, ouais, ça c'est clair.
Ok. Est-ce que tu savais en fait que aussi Matrix avait l'idée de justement mettre en place un système qui soit interopérable et ouvert pour que les différents types de messagerie puissent être compatibles ensemble?
Absolument pas. Comme je l'ai dit, je suis un grand novice, j'ai suivi, j'ai bien compris pourquoi mes amis ont voulu s'installer sur ce Matrix, ce que je trouve au demeurant tout à fait vertueux. Mais j'avoue que voilà, je l'aurais pas fait moi-même. Donc, puis voilà, je suis pas trop dans ce monde-là, je suis vraiment novice, donc c'est vrai que j'avais pas tout connaissance de ça.
Ok. Est-ce que tu m'entends encore là? Parce que je crois que ça a peut-être coupé.
Je t'entends parfaitement.
Ok, très bien. Ok. Et puis une petite dernière question. Est-ce que tu penses que Matrix a de l'avenir ou est-ce que tu penses que ça peut être une solution qui serait intéressante, une solution genre, je sais pas, on parle de décentralisation, on parle d'avoir plus de contrôle, de mieux comprendre aussi les systèmes. Est-ce que tu penses que Matrix ce serait quelque chose pour pouvoir. Il sera un début pour voir comprendre cela, quoi.
Ah, ça, c'est clair que tous les aspects de logiciels libres, les choses qu'on fait un petit peu soi-même, etc., il y a clairement un avenir là-dessus. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que la plupart des logiciels de messagerie qu'on a sont rattachés à des réseaux sociaux, etc. Donc les gens y vont, entre guillemets, ils utilisent la messagerie, mais c'est pas forcément le service premier qu'ils vont chercher, à exception peut-être de WhatsApp et Skype, et encore Skype, on va plutôt chercher la visio. Du coup, est-ce que les gens seraient prêts à tout switcher sur Matrix? Dans les faits, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup d'éducation et qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans la jeune génération, qui n'a pas grand-chose à faire de ces données personnelles, qui finalement l'acceptent comme étant la contrepartie d'un service gratuit et de qualité qu'on peut avoir sur Instagram, avoir plein de filtres, etc., être connecté au bout du monde instantanément. Maintenant, oui, ça a clairement un avenir, c'est évident. Après, est-ce que les gens vont l'utiliser? Ça, pour moi, c'est un autre problème. Et c'est plus, ça relève d'un problème de sensibilité, finalement, des publics utilisateurs de messagerie instantanée.
Ok, très bien. Eh bien. Merci pour ton intervention. Merci pour ton
Je t'en
avis.
prie, avec plaisir.
Et puis, à plus tard sur Matrix, du coup.
À plus
Alors,
tard
en
sur
attendant,
Matrix.
Pierre termine
Merci, le
sur
Pierre.
la question que tu lui poses par rapport à l'avenir de Matrix, hein, et quel sera notre futur sur les outils de communication. Alors, bah toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Matrix, c'est le futur?
Ah bah ça, c'est la grande question qu'on pose à toutes les alternatives de ce qui peut déjà exister. Du coup, c'est une bonne question là. En l'état des choses, je dirais que peu de gens vont utiliser Matrix, mais en fait, ce qu'on voit par exemple avec la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est que bah il y a plein de systèmes qu'on a toujours utilisés, qui ont marché jusqu'à là. On est rentré dans un truc tellement complexe que en fait, les choses aussi essentielles qu'une capacité de se déplacer, en fait, sont juste maintenant annulées par tout ce qui se passe. Du coup, plus en plus, on va peut-être devoir construire des systèmes qui soient résilients, qui puissent va être moins performant peut-être, moins dans l'idée toujours avancer vers un progrès toujours plus rapide, mais peut-être un truc qui soit résistant en quelque sorte à la panne, qui soit résistant à l'imprévu. Et pour ce qui est des communications, c'est quelque chose qui est relativement important parce que c'est quelque chose un peu d'essentiel dans notre vie de tous les jours. Et dans ce cadre-là, en fait, on pourrait dire bah Matrix c'est quelque chose qui vient prendre l'existant pour pouvoir pour ce qui est des communications aujourd'hui, et qui offre un cadre un peu plus décentralisé qui permet potentiellement d'avoir cette résilience en fait qui doit être nécessaire. Et j'ai envie de dire en quelque sorte le futur verra de ce qu'on en fera, mais c'est moi la solution en quelque sorte qui sera adaptée aux enjeux de demain.
Ouais, tout à fait. Ok, et puis à chacun de choisir finalement.
C'est
Donc
ça.
très bien. Eh ben, on verra ça dans une deuxième émission. On verra si vous décidez de choisir Matrix ou pas. On entrera un petit peu plus dans les détails de l'historique de Matrix, de son fonctionnement technique et puis de sa prise en main finalement. Donc on verra ça dans une deuxième émission. Mais pour aujourd'hui, Julien, tu veux lancer le quiz?
Oui, c'est ça. Alors, rapidement, pour faire un retour sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé des applications messagerie qui existent aujourd'hui, de WhatsApp, de Messenger, d'Instagram, vous les connaissez tous, de leur modèle, de ce qu'elles permettent, et aussi des problèmes qui peuvent se poser, tant au niveau de la souveraineté en fait, des personnes que d'un point de vue technique en fait, de la résilience. On a vu qu'en fait, il existait des choses qui s'appellent les protocoles. C'est un moyen de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on communique ensemble et quels sont les outils en fait qu'on peut avoir en place et quels sont les choix en fait qui sont de nos utilisateurs de l'utilisation de ces outils. Et on a parlé de Matrix qui veut être un nouveau protocole qui inclut les communications qu'on utilise aujourd'hui dans un cadre qui est plus général, qui est celui de la décentralisation et des communications. Et du coup, le quiz de cette émission, que permet un protocole en fait finalement? Alors, les quatre propositions sont réponse A, l'utilisation de Matrix. Réponse B, l'interopérabilité du service proposé. Réponse C, plus de sécurité. Et la dernière réponse, la réponse D, des propositions d'amélioration des moyens de communication.
Ok,
Et voilà.
ben écoute, on laisse un petit temps de réflexion. Pour ça, on va se faire une petite pause musicale et on va écouter aujourd'hui Crazy de Anodira et c'est sous licence CC-BY-SA. De retour dans la voie libre. Alors, quelle était donc la réponse au quiz que permet un protocole ouvert, Julien?
Alors, sur les quatre propositions qui, je le répète, étaient l'utilisation de Matrix, l'interopérabilité des services proposés, plus de sécurité et des propositions d'amélioration, en fait, ce sont les trois dernières propositions qui sont vraies. C'est-à-dire qu'on peut avoir une interopérabilité des services, plus de sécurité et des propositions d'amélioration du protocole existant. Voilà.
Eh bah super, bah écoute, on verra ça, on verra le détail de tout ça dans une seconde émission. Donc, en attendant, on peut au moins vous donner un lien, donc c'est le lien matrix.org pour commencer à aller voir un petit peu comment ça marche. Et puis voilà, bah écoute Julien, on se retrouve une prochaine fois.
Oui, à la
Merci
prochaine fois,
beaucoup.
ouais.
Salut
Toi
Julien.
aussi.
Salut.
Salut.
Crazy de Anozira, c'est en licence CC BY-SA.